Véronique Richefleurès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, on va parler avec vous des perspectives économiques, hein, après notamment une décision importante de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé donc un certain nombre de mesures attendues par notamment les marchés financiers qui attendaient une nouvelle aide peut-être de la Banque Centrale. Est-ce que ça, pour vous, ça a été satisfaisant?
Alors dans l'ensemble, le paquet est relativement satisfaisant. Finalement, la Banque centrale annonce à peu près ce qu'on attendait de mieux, hein, et ce va sans doute poursuivre son action. Maintenant, il y a deux limites. La première, c'est que ce paquet intervient très tard, hein, trop tardivement par rapport à des politiques budgétaires très restrictives qui ont cassé la dynamique, enfin plus que cassé la dynamique de croissance, hein, et face auxquelles, finalement, aujourd'hui, on a peu d'éléments pour redresser la barre, recréer de la croissance. Alors, ce qu'a fait la BCE, c'est effectivement le maximum de ce qu'on pouvait envisager sans doute pour fluidifier l'offre de crédit, ce qui est très important. Je pense qu'à ce niveau-là, on n'a probablement plus véritablement d'inquiétude. La grande question, c'est celle de la demande. Et la demande va dépendre effectivement de la situation économique générale. Et à ce niveau-là, effectivement, force est de constater que la BCE a peu d'action, peu de levier. L'effet de sa politique ou de ses décisions sur le taux de change, c'est peut-être là qu'on pouvait l'attendre le plus, va être sans doute limité parce que le paquet est pas très important. Finalement, on est c'est comme si c'était un LTRO3, donc ça va pas très très loin, et donc je pense qu'en définitive, bien qu'on puisse être relativement satisfait, on n'aura pas beaucoup d'effet de cette politique.
Donc ça veut dire que la vraie question reste en Europe celle de la croissance, toujours avec ces politiques d'austérité que vous avez rappelées, et de trouver un moyen de sortir de cette, alors si on n'appelle pas ça une récession, et sur le plan économique en tout cas, de cette très faible croissance globalement.
Quasi stagnation, effectivement durable. Alors il y a deux aspects, hein. Il y a un aspect d'abord sur qui concerne le rythme, la cadence imposée au gouvernement pour assainir leurs finances publiques. Je reste persuadée que ce rythme reste trop intense. Donc on demande trop au risque de casser la croissance, et quand on casse la croissance, on n'en a plus de résultats sur le plan des finances publiques. Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, on aimerait une Europe plus politique, qui ait la capacité de mettre sur pied des plans de développement structurel. On a, je pense, des boulevards sur lesquels on sait que l'économie européenne comme l'économie mondiale vont devoir se développer de manière probablement gigantesque dans les 2 ou 3 prochaines décennies. L'Europe pourrait prendre le devant de cette politique, de ces initiatives de croissance, croissance propre, croissance verte, on appellera comme on veut, transition énergétique. Il y a des tas de domaines, mais pour avancer, il nous faut une force de frappe politique. Celle-là, on ne l'a pas encore.
Alors, du côté des États-Unis, là, on a la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour l'instant, les investisseurs ont l'air de suivre ce qui se passe, effectivement, ce discours-là. Est-ce qu'il peut changer, et est-ce qu'aujourd'hui, on a une certitude sur cette croissance américaine?
Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes en l'occurrence. On a des satisfactions. On a une croissance qui est maintenue à flot en réalité, mais on n'a pas du tout retrouvé les mécanismes de croissance traditionnels de l'économie américaine. Sa capacité à créer beaucoup d'emplois, des emplois peu qualifiés, et donc à maintenir un taux de chômage bas, surtout des taux de participation très élevés, a disparu. Le secteur tertiaire n'a pas du tout retrouver sa dynamique d'avant-crise, et c'est le gisement d'emploi avant tout. L'endettement reste très élevé, donc on ne peut pas escompter un cycle de croissance basé sur l'immobilier par exemple, ce qui était l'espoir de beaucoup. Donc vous avez encore beaucoup beaucoup de dérèglements. Alors à partir de là, effectivement, on peut regarder d'un œil sceptique, c'est un petit peu ma façon de voir, ce que fait la Fed. J'ai peur que la Fed aille trop vite, et il me semble qu'elle va, que le plus probable est que Janet Yellen modère un petit peu les attentes, et peut-être qu'elle garde sous le bras un petit matelas de réserve de poursuite d'achat d'actifs, en dépit néanmoins, c'est peut-être la limite de cette anticipation des risques de bulles que créent effectivement ces montants d'actifs déversés sur les marchés. Donc on a quand même des risques sur l'économie américaine, et je pense une visibilité finalement assez faible.
Alors, est-ce que du côté des marchés émergents, on a vu là aussi un certain nombre de crises, on a l'impression, d'après les derniers chiffres, notamment en Chine, que en tout cas ça va mieux. Est-ce que c'est le cas sur les pays émergents, ou est-ce que là aussi il y a encore des craintes?
Il y a beaucoup de craintes. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'on ne retrouvera jamais le monde d'avant la crise, en réalité. Alors, dans les pays émergents, c'est vrai qu'il y a eu ce plan de soutien de 2010-2011 en Chine qui a, en réalité, tiré l'économie mondiale en dehors de la crise et qui s'est interrompu parce que cette relance s'est faite beaucoup à crédit et, on le sait, a exacerbé des risques financiers majeurs. Aujourd'hui, on a une économie chinoise qui ne peut plus jouer ce rôle de locomotive pour la croissance, un des émergents et un petit peu également des pays développés. Donc je pense qu'effectivement, tout devient beaucoup plus compliqué. Vous avez des pays émergents qui ont réussi à décoller beaucoup plus rapidement ces dernières années grâce à la Chine, qui aujourd'hui sont privés de ce marché essentiel et ne peuvent plus satisfaire les besoins nécessaires à leur développement. Cas du Brésil, de l'Inde dans une certaine mesure, de beaucoup de pays du sud-est asiatique. Donc je crains effectivement que la situation reste compliquée et certainement plus difficile que tout ce qu'avaient anticipé les prévisions de moyen long terme.
Alors un pays qui a suscité aussi beaucoup de questions, c'est le Japon, avec des programmes là, non conventionnels là aussi, et puis une action rapide, en tout cas des choix politiques qui ont été faits. Est-ce que pour vous ça fonctionne ou est-ce que là aussi il va y avoir des limites à ce changement de politique ?
Je pense que le cas du Japon est très intéressant parce qu'en fait, il y a une vraie limite. Et la limite, en définitive, elle vient d'où ? Elle est globale. Elle est que dans un marché, dans une économie qui ressemble, dont la structure est presque celle d'une économie unique, quand il y en a un qui prend, eh bien, il prend forcément sur l'autre. On a une économie mondiale qui a beaucoup vécu sur la multiplication des échanges avant la crise, c'est l'histoire des années 90 et 2000. Aujourd'hui, ces échanges mondiaux piétinent. Donc, il n'y a plus de croissance, le gâteau mondial ne croît plus. Et donc, quand on mène des politiques compétitives, il ne faut pas se leurrer, on prend sur son voisin. Je pense que le Japon a pris sur ses voisins asiatiques. Ça explique également en partie le changement de politique de taux de change de la Chine. Et donc, c'est un peu la patate chaude qu'on passe à son voisin, et ce qui, net, n'est pas profitable. Et le Japon en pâtit parce que ses débouchés extérieurs, qui sont surtout très fortement régionaux, sont pénalisés par sa propre politique. Donc vous voyez, c'est un jeu quand même très compliqué. Je pense que le Japon va devoir revenir d'ailleurs avec sans doute des mesures supplémentaires et pour tenter de faire baisser à nouveau le yen qui s'est raffermi et qui handicape à nouveau cette tentative de reprise.
Le mot de la fin, on n'a pas parlé de géopolitique, mais c'est le sujet effectivement qui s'est installé dans le panorama. On a également vu des suspensions de gaz en Ukraine, donc on voit qu'il y a des sujets là très compliqués. Est-ce que ça peut être des facteurs effectivement de risque pour l'économie mondiale en 2014?
Je pense que ce sont des facteurs majeurs de risque effectivement, que ce soit relativement proche, donc en Europe, la situation en Ukraine et tous les pays qui sont autour. La situation bien évidemment en Irak, qui touche la Syrie, qui peut impliquer bien évidemment la Turquie, ça veut dire l'Europe. On a véritablement des foyers, sans parler de l'Asie également, où les tensions se multiplient, des foyers qui sont en voie de se multiplier. Je pense que la difficulté économique globale ne fait qu'exacerber ce risque. On a véritablement quelque chose là sur lequel il va falloir bien aiguiser nos outils parce que ce sont des bombes qui peuvent effectivement apparaître à tout moment.
Merci Véronique Richflores.
Merci.